Et au menu de notre club, donc cet après-midi, la manipulation des rêves, la fonction de l'orgasme et une psychologie en effet des relations entre l'homme et son chien. Je vous présente mes invités dans un instant. Et puis à la une de la science aujourd'hui, une découverte qui va nous permettre de partir sur les traces des abeilles dans la préhistoire. Axel Villard, bonjour.
Et oui Mathieu, bonjour. Des chercheurs ont analysé plus de 6000 tessons de poterie à la recherche de restes de cire d'abeille. Ils montrent que les produits de la ruche sont utilisés à partir de moins 9000 ans avant notre ère. Vos questions pour nos invités pour la une dans un instant sur Twitter.
Et c'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de notre Tête au Carré avec un dossier préparé par Emmanuel Fournier avec Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Des rêves, des orgasmes, des hommes, des chiens, tout ça dans le club de la Tête au Carré. Constance Larieux, Didier Giroldon, Philippe Hoffmann et Karim Benchenan. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et bienvenue Karim Benchenan, êtes-vous un manipulateur officiel de rêves?
Bah, avec toutes les interviews, ça va commencer.
Oui.
Mais non, on essaie juste de comprendre la fonction de les mécanismes de la mémoire au niveau neuronal. Et pour comprendre la mémoire, il faut pouvoir la manipuler.
Oui,
et
donc vous agissez quand même
voilà,
comme c'est manipulateur, ça, mais sur des rats. Hein,
sur des souris.
Dans un premier temps. Ouais. Philippe Hoffmann, comment expliquez-vous ce lien affectif, voire quasiment amoureux, entre les chiens et leur maître?
Eh bien, c'est... Il n'y a qu'à... simplement penser au chagrin que cela procure lorsque l'on perd un de ses chiens. Et là, on peut facilement le comparer à un chagrin humain lorsqu'on perd un de nos plus proches, amis ou proches de famille. Et donc, c'est vraiment une relation unique, profonde et intense que j'ai voulu un petit peu décrypter à travers ce livre.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Le chien est une personne », on discutera du titre également tout à l'heure chez Albin Michel. Constance Larieux et Didier Giroldon, la fonction de l'orgasme s'installe à la Comédie de Reims et ça vous fait déjà sourire, du 17 au 28 novembre prochain. L'orgasme, Constance Larieux, c'est dans la tête?
Alors l'orgasme c'est en partie dans la tête mais c'est aussi bien sûr dans le corps et c'est là tout l'objet finalement de nos recherches scientifiques et puis théâtrales bien sûr.
Oui parce que vous avez fait vraiment un travail sérieux mais voilà. Pour la scène avant tout. Didier Giroldon, c'est facile de mettre l'orgasme en scène justement?
C'est toute une aventure.
Mais oui, comment vous avez procédé?
Et ben, vous voulez dire au niveau de la mise en scène,
oui,
vraiment?
Comment on travaille?
Avec Constance, on s'est posé beaucoup de questions. Comment représenter non seulement des choses que tout le monde a priori connaît, enfin du moins on l'espère, et
on
en
l'espère,
tout cas,
bien sûr.
On tend vers ça. Mm-hmm. Comment représenter aussi des expériences pour que ce soit ludique et aussi que les gens ressortent en ayant, on l'espère aussi, réappris des choses ou appris des choses.
C'est ça. Et c'est un spectacle que tout le monde peut voir, qui n'est pas censuré, on peut le préciser dès maintenant. Allez, les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur l'ensemble de ces thèmes, sur le mot-clé, l'attaque et sur franceinter.fr. Et à la une de la science aujourd'hui, les premiers échanges entre les hommes et les abeilles.
Ce bourdonnement veut dire quelque chose. Je ne connais qu'une seule raison pour que ça bourdonne. C'est qu'il y a des abeilles. Et s'il y a des abeilles, c'est pour faire du miel.
Avec une date à retenir, moins 9000 avant notre ère, c'est maintenant la date qu'il faudra justement assimiler pour la première apparition des abeilles dans le quotidien des hommes. Martine Roger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur de ces travaux, vous êtes archéochimiste et directrice de recherche CNRS au CEPAM de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Et puis par téléphone, nous sommes heureux d'être avec Jean Guilaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et professeur au Collège de France. Martine Roger, le travail que vous venez de publier avec Mélanie Rofsalk de l'université de Bristol, donc, est assez colossal. 6400 morceaux de poterie, de céramique récoltés partout en Europe depuis 20 ans, à la recherche donc de ces traces de cire. Ce sont les seuls indices que vous aviez justement pour retrouver les abeilles dans la préhistoire?
Alors quasiment, avant ces travaux, il n'y avait pas grand-chose. Nous avons quelques représentations en Égypte, évidemment, puisqu'on trouve tout en Égypte.
Oui, hein.
Donc les plus anciennes représentations de ruches domestiques datent de 2400 avant Jésus-Christ. Et enfin celles qui sont datées, et il y a également des peintures rupestres au Levant espagnol, donc sur la côte est espagnole, qui ne sont pas datées, parce que pas datables, mais qui doivent remonter au néolithique sans plus de précision que cela. Et ensuite, il y avait quelques traces de pollen dans des récipients, mais pour des périodes plus récentes, dont l'association tendait à montrer qu'on était en présence de produits de la ruche, mais c'est à peu près les seuls indices que l'on avait, puisque l'on avait peu également de restes d'abeilles dans le registre fossile.
Qu'est-ce que vous faites quand vous cherchez des traces de cire? Vous faites les fonds de casserole, en fait, c'est un peu
Alors,
ça?
Alors, on fait un petit peu les fonds de casserole et il faut bien voir qu'au départ, on ne cherchait pas les traces de cire puisqu'on n'avait aucune idée de ce qu'on allait trouver. Donc, on cherchait à savoir ce qui était conservé, en particulier tout ce qui est matière grasse et lipide, qui se conserve particulièrement bien. Et ont été retrouvées des matières grasses animales, des huiles dans certains cas, enfin, un certain nombre de substances. Et la cire d'abeille, qui a une signature chimique stable et très caractéristique, se retrouvait systématiquement dans un certain nombre de récipients et nous a donc amené à mettre nos travaux en commun, en fait, nos résultats en commun, Richard Evershed à Bristol et moi-même, nos deux équipes, pour avoir une vision globale, à la fois dans le temps et dans l'espace, de l'exploitation de ces produits qui, par ailleurs, fournissaient bien sûr des données paléoécologiques aussi sur la distribution des abeilles.
Donc, en datant les céramiques et les poteries, on en déduisait l'âge de ces cires?
C'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur des séries de céramiques issues de sites bien datés, dont le contexte est bien connu, daté par ailleurs, par le carbone 14, enfin, par un ensemble de méthodes. Et à partir de là, on peut évidemment faire des cartes de distribution chronologiques et spatiales.
Jean-Guilaine, par téléphone, est-ce que ces résultats vont nous aider à dater l'apparition de l'apiculture?
Ben, peut-être, mais on est sur un terrain encore très très mouvant. Ce qu'on observe évidemment, c'est la présence de cire d'abeille, mais cela ne nous donne pas le moment, en quelque sorte, où l'homme a domestiqué, je mets ce terme entre guillemets, bien entendu, l'animal. Je pense, comme d'ailleurs Martine Régère, qu'avec le néolithique, c'est-à-dire avec le moment où l'homme commence à modifier la nature, à intervenir sur les végétaux, sur les animaux, les abeilles ont directement intéressé. Et puis évidemment, depuis très longtemps, ils consommaient le miel des abeilles produit d'une manière non anthropique, disons.
Alors là, justement, ce qui est intéressant, Martin Régère, c'est que vous avez trouvé des traces de cire d'abeille partout en Europe. Hein. Donc ça veut dire que vraiment, les ruches étaient omniprésentes au néolithique?
Alors les ruches, ce qu'on ne sait pas, comme l'a dit Jean-Guilaine, c'est à quel moment la domestication, entre guillemets, je mets aussi des guillemets, a eu lieu. Ouais. À partir de 2400, enfin, les représentations espagnoles, du Levant espagnol dont je parlais, ça correspond à l'exploitation de ruches sauvages. 2400 avant Jésus-Christ en Égypte, ce sont des ruches domestiques. Et à partir de ce moment-là, on trouve plusieurs traces de ruches domestiques et de céramiques, notamment, qui ont servi de ruches. Avant cela, je ne sais pas si on arrivera à dater la domestication. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont exploité les produits de la ruche, y compris de ruches sauvages, dès le début du néolithique.
Est-ce qu'on peut par contre imaginer, Jean-Guilaine, à quoi servaient ces produits de la ruche à ces époques?
Alors, écoutez, je peux rajouter quelque chose à ce que vient de dire Martine Régère, c'est que l'homme a eu tôt besoin de cire, hein, parce qu'en particulier, à partir du moment où il a inventé la métallurgie, et on a des traces de métallurgie, disons en gros à partir de 4000 avant notre ère, il a effectué en quelque sorte il a fabriqué des instruments à partir de la cire perdue, n'est-ce pas? Donc il a fallu modeler en quelque sorte des outils en cire qui ont été ensuite transformés évidemment en métal. Alors on a par exemple en Israël, vers 4000 avant notre ère, un très gros dépôt d'objets cérémoniels. Il y a des sceptres, des couronnes, des parures, des récipients qui ont été faits à la cire perdue. Et je pense que pour réaliser une telle métallurgie, de tels produits, on a dû avoir recours évidemment à de la cire, beaucoup de cire même. Et je pense donc que si nous n'avons pas une date précise des débuts de l'apiculture, au moins on peut penser que dès cette époque-là, on avait besoin de cire à un niveau qui était, je mets des guillemets encore une fois, industriel. Et que donc déjà autour de 4000 avant notre ère, l'apiculture existait.
Martine Reger, pour terminer, il y a une actualité qui résonne avec votre découverte, c'est l'insecticide Roundup à base de glyphosate qui va être réintroduit en Europe, en tout cas on le saura en juin. Est-ce que vous avez envie de réagir à cette actualité?
Disons que ça ne relève pas de mon domaine de compétence, puisque moi je me suis intéressée aux abeilles dans le passé, mais il est clair que je réagis en tant que citoyenne là, et pas forcément chercheur, mais que c'est assez décevant et ça ne me paraît pas être une bonne nouvelle pour les abeilles. Cela fait néanmoins 9000 ans que nous cohabitons et on ne peut qu'espérer que nous serons assez sages pour continuer l'aventure ensemble.
Ouais, et pour stopper l'effondrement des colonies qu'on observe partout dans le monde. Merci beaucoup Martine Reger, bravo pour ces travaux, publication cette semaine. Et puis merci également pour votre éclairage Jean-Guilaine.
Merci.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une exoplanète quasi jumelle de la Terre, découverte d'une taille et d'une masse proche de celle donc de notre planète, la petite nouvelle, baptisée GJ1132b, retenez bien son nom, devrait également être une rocheuse, mais les ressemblances avec notre monde s'arrêtent là, puisqu'il y fait très chaud, 226 degrés Celsius estimés, des températures qui ne laissent aucun espoir à l'eau liquide, mais qui n'excluent pas la présence d'une atmosphère, une hypothèse qui sera bientôt vérifiée. Prédire la sortie d'un patient du coma sera bientôt possible. Des scientifiques en France ont comparé le cerveau de 27 patients plongés dans le coma à ceux d'individus sans troubles neurologiques à partir d'une IRM fonctionnelle. Ils ont constaté que la récupération des patients était intimement liée au degré de communication entre deux zones cérébrales. Les spécialistes ont précisé que les malades qui vont récupérer un état de conscience présentent des niveaux de connexion comparables à ceux observés chez les sujets sains. À l'opposé, une diminution de la communication entre les deux zones prédit une évolution défavorable vers un état végétatif. Une révolution donc à venir pour le monde médical et des dizaines de milliers de personnes en France concernées chaque année par le coma. Et puis pour finir, les cafards ont du mordant. Une étude anglaise révèle que des cafards américains, les Periplaneta americana, sont capables de mordre avec une puissance qui correspond à 50 fois leur poids. Une morsure proportionnellement 5 fois plus puissante que celle des humains. Cette découverte pourrait permettre aux chirurgiens, par exemple, d'utiliser des pinces ultra solides mimant les muscles et les articulations des cafards durant leurs opérations. Un pas prometteur pour la technologie de pointe. Le club des têtes au carré dans un instant.
Souvent la tête dans la cantine, je dessine le goût amer de ta cuisine. babine, souvent la tête dans la cantine. Je dessine le goût amer de ta cyprine. Mes babines, et je finis par voir des gens. Encore, encore, et je finis par voir des gens. Encore, encore, et je finis par voir des gens. Encore, 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 et je finis par voir des gens. Encore, encore, encore.
Bouche à lèvres avec O de Zen à l'instant.
Le club des têtes au carré, en partenariat avec TEDx Paris, sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, on va donc manipuler les rêves, découvrir la fonction de l'orgasme et explorer les relations homme-chien avec mes invités Karim Benchenan, Philippe Hoffman, Constance Larieux et Didier Giroldon. Et vous nous rejoignez déjà avec vos messages et vos questions. Alors justement, Karim Benchenan, vous êtes le premier invité de ce club à l'occasion de notre partenariat avec TEDx Paris. Vous étiez sur la scène du Châtelet il y a quelques jours à peine.
Oui, dimanche dernier.
Ça va, ça s'est bien passé? Le neuroscientifique est à l'aise sur les planches?
Bah, on a été très très bien préparé par l'équipe de TEDx avec Michel Provençal, ouais. Lévi Provençal. Et c'était vraiment une super expérience à la fois parce que moi j'ai rencontré les autres interlocuteurs et c'est des gens que j'ai jamais le loisir de rencontrer dans mon cadre de travail. Et également parce que on s'aperçoit que c'est assez difficile de faire quelque chose d'intéressant pour les gens avec du positif. C'est toujours plus facile de jouer sur les peurs, les choses comme ça. Et là, il y avait vraiment une volonté de prendre des sujets très positifs et d'en faire quelque chose d'intéressant pour le public dans un temps court et dans un cadre, c'était assez
au théâtre du Châtelet quand même.
Ouais, c'était assez merveilleux. Ouais. Hein, c'était une expérience assez.
Et c'est
assez
l'occasion vraiment de sortir vos expériences du labo, hein, pour pouvoir en discuter justement et les
présenter.
Oui, voilà, au
d'avoir un rapport et puis aussi d'intervenir avec l'équipe, de savoir comment parler parce qu'on est dans une espèce de tour d'ivoire et de vulgariser nos travaux en les rendant intéressants sans rester sur le côté technique et c'est une vraie
c'est une prouesse.
Qualité, oui. Ouais.
Alors vous êtes chercheur en neurosciences au CNRS et vous dirigez une équipe de recherche à l'ESPCI Paris Tech au sein de l'unité plasticité du cerveau. Alors sur quoi portent vos recherches exactement?
Je travaille principalement sur le rôle du sommeil dans la mémoire. Mm-hmm. C'est-à-dire que en quoi le fait de dormir après un apprentissage va améliorer cet apprentissage.
Ouais.
Et la finalité, c'est de mieux comprendre la mémoire. Ouais, on s'aperçoit que pour mieux comprendre la mémoire qui se passe dans la journée, bah, y a rien de mieux que de travailler sur le sommeil pour nous donner des indices.
Ouais. Chez toutes les espèces animales, de l'homme à la souris, en passant par les singes, le sommeil est capital justement dans la mémoire.
Ah oui, mais même chez des mouches ou même des abeilles, comme on en a. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre pourquoi l'évolution n'a trouvé aucune autre solution que de faire dormir des animaux. Et on trouve énormément de choses. On sait par exemple la sécrétion d'hormones de croissance pendant le développement se passe pendant certaines phases du sommeil. On sait, moi je travaille sur l'influence de la mémoire, mais on a du mal à comprendre comment on peut pas faire sans. Et donc on continue de chercher. Et il y a même des gens qui essaient de faire rêver des robots.
Ah oui, c'est ça. Bah c'est comme l'orgasme, Constance Larieux, au fond. Hein. C'est commun à toutes les espèces vivantes.
Tout
c'est ce qu'on apprend dans votre spectacle.
C'est commun à toutes les espèces vivantes. Alors avec la petite subtilité qu'effectivement chez l'homme, tout de même, on a. Je pense qu'il y a des processus un petit peu plus complexes qui entrent en jeu.
Chez la mouche, c'est fantasme, moins évident peut-être.
Voilà.
C'est peut-être un peu moins
documentateur.
C'est ça.
Il faut avoir les bons outils pour observer l'orgasme de la mouche. En tout cas, Karim Chenan, vous travaillez plutôt sur la souris. Alors, qu'est-ce que vous leur faire à vos souris en laboratoire pour étudier la mémoire au travers du sommeil?
En fait, on s'aperçoit, donc c'est très très dur de travailler sur la mémoire comme on l'entend chez l'homme. Chez la souris, on travaille principalement sur la mémoire spatiale. C'est-à-dire qu'on met les souris dans des petits labyrinthes et on met une récompense à un endroit. Et le fait que la souris aille à cet endroit nous indique qu'elle se souvient de la localisation de l'endroit. Et on travaille principalement sur la mémoire spatiale parce que quand on enregistre les neurones dans l'hippocampe, donc la structure impliquée dans la mémoire, on s'aperçoit que les neurones agissent comme des cellules de lieu. C'est-à-dire que quand la souris se déplace, quand elle est à un endroit particulier, il y a un neurone, quelques neurones qui sont actifs et ils sont silencieux partout ailleurs.
Donc c'est vraiment une zone dédiée au lieu, c'est ça? On pourrait dire
voilà,
des choses comme ça.
Chez la souris, il y a une grosse controverse pour savoir si ça ne fait que de l'espace ou pas. Mais en tout cas, quand on enregistre l'activité des neurones, on sait simplement en regardant l'écran d'ordinateur exactement où se trouve la souris. Et ce qui a été intéressant, c'était on s'apercevait que si on faisait dormir la souris après, on voyait les cellules de lieu qui s'activaient comme si elles reparcouraient les trajectoires qu'elle a réalisées pendant l'éveil. Et c'est là où on est obligé de dire comme si. parce qu'on ne sait pas. Et donc, pour aller de cette observation à un rôle causal, on est obligé de manipuler la mémoire l'activité de ces cellules de lieu, et c'est exactement l'expérience qu'on a réalisée.
Et donc, votre manipulation, c'est de créer un faux souvenir, justement, chez la souris pendant son sommeil. Extrait du film Inception.
Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient.
Des rêves, autrement dit.
Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets.
Et là, vous cambriolez le rêve.
Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'inception.
Voilà, et dans ce film, le personnage joué par Leonardo DiCaprio entre dans les rêves, alors là, pas des souris, mais directement des personnes qu'il veut manipuler. Le but étant d'implanter, je crois, une idée dans la mémoire, justement, des individus. Mais on n'en est pas là. Non, mais ça marche chez la souris.
Non, chez la souris, ça marche. On a enregistré les cellules de lieu, par exemple, quand la souris se déplaçait dans un environnement où il ne se passait absolument rien du tout. Et en gros, quand on a fait dormir la souris juste après, et quand une des cellules de lieu était active pendant le sommeil, donc théoriquement quand elle est en train de réactiver l'endroit spatial, on avait développé une interface cerveau-machine qui pouvait détecter en temps réel l'activité de ce neurone et qui déclenchait automatiquement une stimulation électrique qui était localisée dans la région du plaisir. Donc pendant le sommeil, à chaque fois qu'une cellule de lieu était activée, on donnait une récompense.
Ouais.
Puis on a fait ça pendant une heure, on a réveillé la souris.
Donc ça, c'est la manipulation en elle-même.
C'est cette phase, pendant qu'elle dormait, on essayait de lui apprendre à... Et on réveillait la souris et elle allait directement dans la partie de l'espace qui était activée, pendant laquelle le neurone était actif.
Ouais. Et qui donc était associé au plaisir.
Voilà, exactement.
C'est important.
Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne crée pas un souvenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à parler anglais pendant le sommeil. Mais par contre, si un souvenir a été mémorisé pendant l'éveil, on peut le rendre plus positif pendant le sommeil, ou potentiellement aussi plus
négatif. C'est presque de la souris télécommandée, en fait, Vous l'emmenez là où vous voulez.
Bah, c'est-à-dire que c'est télécommandé si jamais on a enregistré pendant plusieurs heures avant. C'est-à-dire qu'on peut pas le faire.
Il y a une petite manipulation, évidemment, nécessaire. Voilà. En tout cas, Constance Larieux et Didier Giroldon sont déjà heureux parce que j'ai l'impression qu'ils ont presque le sujet de leur prochain spectacle.
C'est vrai que pour nous, c'est passionnant parce que même en tant que comédien, de manière purement égoïste, en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que ça pourrait être très intéressant comme manière de booster la mémoire, finalement, parce que intuitivement, enfin, moi, c'est vrai que j'apprends beaucoup plus facilement avant de m'endormir, par exemple.
Vos textes, par exemple, pour la scène, parce que là, vous êtes une heure et demie en scène toute seule. Et donc, il faut apprendre beaucoup de textes.
Oui, tout à fait.
Et le mieux pour vous, c'est de le faire le soir.
Ah bah, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus de facilité, effectivement, le soir. Et je sens que ça travaille de soi-même après.
Oui, ça, on l'avait montré. On l'avait montré dans une étude en 2009, quand j'étais en postdoc au Collège de France, où, au lieu de créer un faux souvenir pendant le sommeil, on avait essayé de supprimer. Pour savoir si vraiment les réactivations pendant le sommeil étaient impliquées dans la consolidation de la mémoire, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait apprendre une trajectoire dans un labyrinthe pendant l'éveil, et pendant le sommeil, on essayait justement de supprimer ces réactivations. Et on s'apercevait que le rat n'était plus capable d'apprendre. Et donc, le fait de rejouer les informations, le fait de dormir juste après un matin d'apprentissage, on s'aperçoit que le cerveau a développé des mécanismes pour rejouer les informations, et que cette réactivation agit comme la répétition dans un apprentissage normal. Donc c'est le maître de grand-mère, il faut apprendre ses leçons avant de se coucher.
Je vois Didier Giroldon qui est en train de prendre des notes mentalement.
Je prends des notes mentalement, et puis c'est aussi vraiment dans notre sujet, puisque nous on a vu que dans l'orgasme, il y avait aussi tout plein de systèmes qui étaient mis à l'œuvre. Et la mémoire, c'est aussi quelque chose de très important pour la survenue de l'orgasme.
Vous savez étudier l'orgasme chez la souris ou pas?
C'est-à-dire qu'on déclenche des stimulations dans la région du plaisir, donc une très très forte récompense.
Est-ce qu'elle réagit alors? Elle se gratte le ventre?
Non, elle essaie de refaire ce qu'elle a fait juste avant d'obtenir la stimulation de récompense. Donc, il y a des chercheurs, la première fois que ça a été observé, ils appelaient ça la superstition. Parce que si la souris tourne sur elle-même, appuie sur une pédale, et le fait d'appuyer sur la pédale déclenche la stimulation de récompense. Pendant une heure, elle va tourner sur elle-même, appuyer sur la pédale. Et elle va mettre très longtemps à s'apercevoir que c'est juste appuyer sur la pédale.
Quelles pourraient-elles des applications à l'homme? Alors, si évidemment les comités d'éthique étaient d'accord, parce que là, on met même entre parenthèses l'aspect éthique.
Oui.
Mais si on pouvait comme ça modifier les souvenirs.
Bon, en fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est capable de travailler chez la souris, non plus sur ce que fait la souris, mais sur ce qu'elle pense. Ça, c'est très, très, très important pour développer de nouveaux traitements pour les maladies neuropsychiatriques, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une souris schizophrène, ou des choses comme ça. Oui. Et là, de pouvoir travailler sur la pensée, vraiment la représentation chez la souris, c'est un grand pas en avant. Et la deuxième chose, c'est le stress post-traumatique, parce que le stress post-traumatique, c'est d'associer une situation particulière à une réaction de peur pathologique, et cette association est mémorisée. Et pour le traitement, en fait, on essaie de demander aux gens de repenser à cette situation traumatisante, mais de les mettre dans un cadre agréable pour essayer de casser cette association.
Donc c'est ça, l'idée, ce serait de rendre le souvenir positif, c'est-à-dire voilà, le souvenir traumatisant devient positif pour guérir le traumatisme.
C'est exactement. On essaie de les mettre dans. Le problème, c'est que quand on place les gens dans la même situation, le cerveau sait que c'est pas réel. Alors pendant le sommeil, il sait que c'est réel.
Ouais.
Et ce qu'on voudrait savoir, c'est si le côté positif remplace le côté négatif. On veut pas faire une addition des deux, parce que sinon on aimerait ce qui nous fait peur, ce qui est pas...
Vous avez des éléments de réponse, Philippe Hoffmann? Là, je m'adresse au psychologue.
Nous, bien sûr, en psychanalyse, on s'intéresse depuis toujours au rêve, puisque c'est la voie royale de l'inconscient. Hein. Et c'est évident, moi aussi, je suis gérontologue par ailleurs, j'ai pas mal étudié les problématiques de mémoire, de mémorisation et de vieillissement de la mémoire. Et c'est vrai que on est toujours stupéfait de voir un peu tout ce travail nocturne. Hein, ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression, en tout cas à mon petit niveau de néophyte, en tout cas sur le plan neuronal, que ça reste toujours hypothétique, qu'on n'a pas encore de certitude là-dessus. Et donc, du coup, cette histoire de voie royale de l'inconscient où évidemment on remanie les souvenirs et voir des souvenirs très anciens, ça tient encore la route. Nous, ça nous permet de travailler.
Oui, Karine Benchenan.
Oui. Après, c'est toujours compliqué. J'essaie de faire très attention aux mots que j'utilise parce que, par exemple, je dis comme si la souris rêvait de le reparcourir. Ouais. En fait, donc on peut pas savoir s'il y a un ressenti subjectif de la souris. On travaille dessus. Et l'autre problème, c'est que les réactivations, par exemple, des trajectoires spatiales, sont observées pendant le sommeil à ondes lentes, alors que le rêve, normalement, est pendant le sommeil paradoxal. Et donc on essaie de comprendre comment les différentes phases du sommeil sont bénéfiques pour la mémoire. Il y a différents types de mémoire. Par exemple, il y a la mémoire qu'on appelle déclarative, qu'on est capable, c'est un rappel conscient. Donc, soit j'ai passé mes vacances en Corse ou Paris, la capitale de la France. Et il y a tout un autre pan de la mémoire qui est par exemple la mémoire motrice. C'est-à-dire qu'on peut apprendre une séquence motrice ou à faire du violon sans du tout s'en souvenir. Il y avait des gens qui étaient amnésiques, qui apprenaient à plusieurs fois à faire du violon, enfin un morceau de piano par exemple. Et au bout de certains jours, ils y arrivaient bien. On leur demandait, mais c'est la première fois que vous jouez ce morceau. Ils disaient oui. Donc, il y a différents types de mémoire. On s'aperçoit que, par exemple, le sommeil à ondes lentes serait peut-être plus bénéfique sur la mémoire déclarative, alors que l'apprentissage moteur ou tout ce qui est émotionnel serait plus dans le rêve.
En tout cas, on n'en est pas Inception encore.
Hein, non,
mais
encore.
Déjà, quand même des choses intéressantes au niveau de l'animal.
Donc, le principe, et de ce modèle. Dans le principe, ça peut marcher. Après, il faut.
On peut retrouver votre prestation, Karim Benchenan, en vidéo sur le site de TEDx Paris, qui est en lien sur, bien sûr, La Tête au Carré avec toutes les autres prestations de scientifiques.
Safety nets, stronger love, make it all right to let go. You gotta hold on. Oh, it's gonna slip, slip, slip through your slip, slip. Slip through your head. Whoa, whoa, whoa. Oh, it's gonna slip, slip, slip.
Mosley, et c'est Elliot à l'instant.
Le club au carré sur France Inter.
Allez, à la suite de notre club, Karim Benchenan est resté avec nous. On va parler de l'orgasme dans la dernière partie, Constance Larieux et Didier Giroldon. Et avec vous, Philippe Hoffmann, on s'intéresse à ce livre qui paraît, que vous publiez chez Albin Michel, Le chien est une personne. Vous êtes psychologue clinicien, spécialiste des questions des relations familiales. Alors Marjorie a réagi à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le sommaire. Elle nous dit ceci: je trouve la position des hommes vis-à-vis de leurs animaux domestiques paradoxale. On disait tout à l'heure qu'ils sont comme nos proches, nous les pleurons comme tels à leur décès, et pourtant nous nous consolons en allant en acheter un autre, pratique peu courante quand on perd un proche, évidemment.
Voilà.
Donc
alors, c'est vrai que le titre est une sorte de petite provocation, hein, bien entendu.
Le chien est une personne, oui, effectivement.
Voilà, quand même. C'est toujours, il faut trouver une accroche, vous savez, oui. comment c'est aujourd'hui. Donc, c'est justement l'intérêt du livre, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est pas tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, un livre d'éthologie ou d'ethnozoologie, comme on dit aujourd'hui, mm-hmm. sur l'étude un peu des comportements animaux, même des animaux familiers face aux humains. C'est beaucoup plus l'interaction qui m'a intéressé, et puis justement le paradoxe, le fait que on dit à tout le monde, tous les gens qui ont des chiens par exemple, attention à l'anthropomorphisme, il faut pas les considérer comme des personnes, comme des bébés, comme des enfants, ce ne sont que des chiens. Alors que dans le fond, quand on discute avec tous les gens propriétaires de chiens, à un moment donné, ce ne sont plus des chiens, ce sont des vraies personnes à part entière, alors que ce soit des membres d'une famille quand il s'agit d'une famille un peu élargie, ou alors carrément des enfants de substitution, ou même, pourquoi pas, un conjoint de substitution quand on est veuf, ou au contraire, une mère protectrice quand on est, par exemple, SDF. Oui. Bon, donc il y a toujours une fonction psychique de l'animal familier, et encore plus du chien, parce qu'il a cette particularité d'être dans une interaction intense et proche avec nous.
Oui. Qui a un chien autour de cette table, Constance Larieux?
Oui, alors oui, moi j'en ai un, pas à Paris, mais j'en ai un dans ma maison de famille. Ouais.
Et alors c'est quoi comme race?
Alors c'est un croisé Labrador et Braque Bleu d'Auvergne.
Donc une bonne bête quand même. Hein. Didier Giroldon?
Uniquement des chats ou des tortues, mais dans le passé ça fait longtemps.
D'accord, Karim Benchenan?
Non,
pas de chien. Et alors vous, Philippe Hoffmann, vous avez deux chiens?
Alors moi j'ai
chiens.
Deux magnifiques chihuahuas, voilà. Et pour les gens qui ne me voient pas sur pied,
vous faites 2 mètres de haut.
Voilà, et c'est à peu près le plus petit chien de la création. Hein.
Voilà, dont ma petite babacoule qui pèse 1,4 kg. Très bien, et vous avez une laisse très longue, donc pour les promener, j'imagine, oui, c'est très étonnant de vous voir les balader. Comment est-ce qu'en tant que psychologue, vous en êtes arrivé à vous intéresser aux chiens?
Alors en fait, j'ai l'avantage de travailler à la fois avec des enfants et avec des seniors, donc je vois un peu tous les âges de la vie. J'ai écrit quelques bouquins auparavant sur les différentes... Les différentes situations que l'on rencontre à tous les âges de la vie, mais par contre, ce qui m'a toujours impressionné, c'est que on oublie dans nos consultations, par exemple, dans nos consultations psy, on oublie très souvent le rapport que les êtres humains ont avec leurs animaux familiers. C'est quelque chose qui est un peu optionnel dans la discussion. Alors qu'en fait, si on creuse de ce côté-là, on va arriver souvent à l'essentiel.
Et pour vous, c'est déterminant.
Et pour moi, c'est extrêmement déterminant, beaucoup plus qu'on ne l'imagine.
Ouais. Et le psychanalyste s'intéresse aussi à l'impact du chien sur notre inconscient, par exemple.
Pourquoi pas, bien sûr. Alors bien, après, il y a toutes les interprétations. Vous savez, le chien fétiche qui représente la virilité ou la protection, etc. Mais on peut faire toutes sortes d'interprétations.
Même avec des chihuahuas, on peut...
Même avec des chihuahuas, vous savez, c'est... Et encore plus avec des chihuahuas.
Ah, dis donc. Est-ce que le chien est vraiment le plus vieux compagnon de l'homme? Vous avez un
oui,
petit peu
recherché
là-dessus.
Oui, alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. C'est vraiment de loin le plus vieux compagnon familier de l'homme. Il y a des sépultures qui ont été retrouvées il y a plus de 20 000 ans. Hein. Donc, où il y a des restes humains et des restes canins. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que ce sont les cousins des loups, mais ce ne sont pas des loups. Hein. Génétiquement, ils se sont séparés il y a 200 000 ans. Donc, les chiens se sont rapprochés des humains et en fait, ils ont été vers l'espèce la plus forte. Et ils ont su se protéger. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il reste 150 000 loups et il y a plus de 150 millions de chiens.
En allant auprès des hommes, ils ont fait le bon choix, au fond.
Voilà, ils ont fait le bon choix.
Ouais. Alors, les hommes et le petit homme, l'enfant et le chien, vous ouvrez le livre, d'ailleurs, par ça, pour parler de ces interactions.
Voilà, dans le livre, j'ai fait une sorte de chronologie. J'ai commencé par les enfants, les adolescents, les jeunes seniors, les plus vieux. Puis après, j'ai parlé un peu des cas un peu particuliers, comme les SDF,
vous le disiez tout à l'heure, ou les aveugles.
Ouais. Donc, je pense que pour les enfants, c'est véritablement, quand on a la chance d'avoir un chien dans une famille, c'est véritablement une présence structurante. Ça apprend énormément de choses à l'enfant. On pense même d'ailleurs que ça initie des formes d'empathie. Mais il ne faut pas oublier que quand on dit que ça, vous savez, on a l'impression que voilà, le chien est unique et que si on n'a pas de chien, on ne va pas pouvoir évoluer naturellement. Non, il faut pas dire ça. Ce qui compte, c'est que ce soit un contexte global. Mmh. Il faut avoir des parents aussi qui soient attentionnés, structurants, chaleureux. Mais le chien va compenser pas mal de manques, de dysfonctionnements dans les familles recomposées, dans les tensions familiales, dans les parfois les rivalités fraternelles, il va servir de confident. Et alors, ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que c'est un être idéal, c'est un bébé parfait, il est docile, il vous regarde avec un regard d'amour absolu, il est fidèle, et en plus de ça, même si on est un peu vache avec lui, qu'on le rejette un peu, qu'on est maltraitant, eh bien, il nous aime toujours.
C'est ça. Et il est davantage tourné vers les autres que vers lui-même, ce qui est quand même très agréable quand
on
est admiré par son
chien.
Donc
ça, c'est quand même l'essence même de l'empathie.
Constance. Et moi, j'avais une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un réel dialogue, justement, avec l'animal? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce phénomène d'attachement, mais alors l'animal ne peut pas vraiment nous répondre. Enfin, il nous répond, il donne des signes de
d'affection. Alors justement, là où, si vous voulez, il y a eu une dissension entre les philosophes et les éthologues, par exemple, c'est qu'on dit, voilà, ce n'est pas un être de langage, il n'a pas accès au langage, donc il ne peut pas symboliser, etc. C'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui ont étudié ça, en particulier des neuroscientifiques, qui ont montré que les chiens avaient des émotions. Enfin, d'ailleurs, il y a plein d'animaux qui ont des compétences incroyables. Mmh. Par contre, ce qui est très important, c'est que on a ce qu'on appelle une communication infraverbale. On n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Et ça, c'est très, très, très bien. Il y a qu'avec les chiens que ça se passe comme ça. Il suffit qu'un chien vous regarde d'une certaine manière, vous savez s'il veut sortir, s'il veut bouffer, s'il veut... vous le savez parce que vous êtes son compagnon et que c'est votre compagnon.
Karim Benchenan.
Il y a parfois, quand on a une vision un peu anthropomorphique du chien, est-ce qu'on ne peut pas arriver à faire des choses qui, paradoxalement, on pense que c'est bien et ça va stresser l'animal? Par exemple, le chien est un animal de meute, et donc il y a un ordre hiérarchique très, très, très hiérarchisé. Et en fait, ça le déstresse de savoir sa position.
Vous parlez beaucoup de l'éducation canine.
Oui, alors j'en parle, mais pas exagérément, parce que c'est pas non plus mon propos. Hein. Ouais. Je suis pas éducateur canin.
Mais vous dites que c'est important d'avoir des rapports clairs et constants.
Voilà,
il
faut avoir des rapports clairs et constants. Mais là-dessus, par exemple, sur l'histoire de la meute, là, il y aurait toute une polémique à ouvrir, parce que c'est une vieille ancienne, si vous voulez. Alors qu'en fait, les chiens ne sont pas les chiens domestiques et familiers que l'on a avec nous ne sont plus des chiens sauvages, et donc ne sont plus du tout hiérarchisés, comme peuvent l'être les loups, par exemple, qui sont hyper hiérarchisés. Et c'est ce qui fait qu'aussi, parfois, ils sont comme des personnes, puisqu'ils peuvent être odieux, voire agressifs, etc. Ils peuvent avoir quand même des attributs humains, mais dans l'ensemble, on arrive quand même à les dresser. Hein. Mais on ne les dresse pas de manière absolue. Vous savez, Pavlov, ça ne marche pas. Hein. Si on n'a pas un attachement à l'animal, l'animal ne nous obéit pas totalement.
Alors, vous parlez beaucoup de l'importance thérapeutique des chiens. On va écouter un reportage de TV Vendée réalisé en 2009 dans une maison de retraite.
Bonjour, Madame Grelier. Asser vous apporte le journal. Assis. Donne le journal. C'est bien, Asser, c'est bien.
À sa façon, Asser dit bonjour chaque matin aux résidents de la maison de retraite. Il apporte le journal, se laisse brosser, caresser. Depuis 3 ans, ce Golden Retriever tient compagnie, stimule et recrée des liens entre le personnel de l'établissement et les personnes âgées.
Ça permet de parler du chien d'autrefois. Comment s'appelait votre chien? Reparler un petit peu de leur vie d'autrefois et se remémorer des bons moments de leur vie.
Dressé spécialement pour ce type d'établissement, Acer répond à 53 commandes. Il apporte sa gamelle, aboie quand on lui demande, mais sa plus grande qualité, c'est sans aucun doute sa patience sans limite.
Ça me fait une compagnie, je lui parle, même qu'il ne me répond pas. C'est très intelligent, un chien, ça comprend tout. Hein, t'es gentil. Oh, t'es gentil.
Voilà, le chien est une personne, Philippe Hoffmann, et l'importance thérapeutique de l'animal, hein. Voilà, pas seulement là, sur les personnes âgées d'ailleurs.
Non, mais là c'est un très bel exemple, parce que je crois que on le sait, lorsqu'on caresse un animal familier, ça apaise les gens, ça fait baisser le rythme cardiaque, ça fait beaucoup de bien. Et là, pour les personnes, ça les sort de leur solitude, ça réactive leur mémoire aussi, parce que c'est une mémoire sensorielle très souvent. Et puis, il y a une chose qui est particulière avec le chien, qui est presque un élément médiateur absolu, c'est que ça supprime les classes sociales, les classes d'âge, les différences. Et quand on est deux propriétaires de chiens qui se rencontrent, on parle de toutou. Et du coup, on a le sourire aux lèvres et on ne s'encombre d'aucun a priori qu'on pourrait avoir dans une rencontre parfois un peu difficile. Voilà,
c'est plus compliqué que la souris, hein, Karim Benchena, d'avoir ce type d'interaction sociale, on va dire.
Oui, un peu plus, mais il y a des souris avec des caractères.
Hein, oui, voilà. Sûrement. Merci beaucoup. En tout cas, Philippe Hoffmann, vous restez avec nous. Ça s'appelle Le chien est une personne, psychologie des relations entre l'humain et son chien. C'est très intéressant, passionnant même, et c'est chez Albin Michel.
Merci.
Jusqu'au bout de Culture Club sur France Inter. Et justement, dans notre club, pour terminer, Constance Larieux et Didier Giroldon. Vous êtes tous les deux comédiens, co-auteurs, co-metteurs en scène de La fonction de l'orgasme, un spectacle qui sera joué à la Comédie de Reims à partir du 17 novembre jusqu'au 28. Et puis ensuite, vous partirez en tournée dans toute la France.
Oui, on espère dans toute la France, en tout cas.
Il y aura un petit tour par Paris aussi, on l'espère. Constance, vous êtes à peu près seul sur scène tout le temps. Il y a une petite incursion de Didier, mais très rapide. Et vous présentez ce spectacle, vous le disiez tout à l'heure, comme une recherche théâtrale.
Oui, c'est vraiment une recherche qu'on a menée. Enfin, au départ, c'est un projet que j'avais initié, moi déjà, il y a 5 ans. Et puis, il s'est trouvé que ça a pris la forme d'un monologue. Donc, j'avais aussi besoin d'avoir quelqu'un à l'extérieur pour me renvoyer des choses. Oui. Et donc, on a décidé de co-signer la mise en scène avec Didier, avec qui je travaille par ailleurs. Sur d'autres projets.
Didier Giroldon, vraie fausse conférence scientifique avec des archives, des interviews.
Oui, ça a été un gros boulot.
Le journal intime, c'est vrai, il y a beaucoup de vidéos aussi, c'est très intéressant, puis vous avez vraiment enquêté.
Oui, en gros, on peut dire que ça a pris 2 ans pour commencer à dessiner les contours du sujet et aussi comment on allait effectivement le mettre en scène et puis rentrer dans toute cette matière, puisque quand même on est parti de l'ouvrage de Wilhelm Reich, donc La fonction de l'orgasme, ouais. Quel titre de sa thèse en fait qu'il a écrit en 1927, à l'époque, ou à une époque où justement il se distancie un peu de Freud,
oui.
Où lui il va carrément chercher l'orgasme comme la solution ultime à tous les maux de la société,
ouais.
Et notamment l'orgasme contre la montée des nationalismes et du nazisme alors que l'Allemagne est en train de devenir
Oui, c'est vraiment l'idée que l'orgasme est un projet politique, puisque par la connaissance de l'orgasme et donc du vivant en général, puisque lui il parle de l'orgasme comme la base du fonctionnement vital, comme même il parle de la division cellulaire qui est une forme d'orgasme pour lui, et donc il explique que
un peu
vraiment...
obsédé par l'orgasme quand même votre copain William Reich, Philippe Hoffmann,
il explique vraiment que par cette connaissance du vivant on peut combattre la peur, ouais. Et donc la terreur et donc la montée du
c'est ça. Il était élève de Freud, hein, très iconoclaste quand même dans ses propositions.
Au départ, il était complètement dans la mouvance psychanalytique et puis il a changé son braquet.
C'est ça. L'orgasme peut-il s'appliquer aux animaux sauvages et aux animaux domestiques, demande Viron sur franceinter.fr. Didier,
si on reprend la formule que Reich a théorisée, l'orgasme c'est tension qui donne charge, qui donne relaxation, c'est la formule de la vie. Pour lui, donc ça se retrouve, en tout cas c'est une formule qui se retrouve dans tous les organismes copulants, et y compris chez les protozoaires où on constate une contraction du plasma, alors sans aller vers
l'anthropomorphisme. Bravo. Vraiment, il a bien étudié la question, Karim Menchenan.
Oui, après le gros problème, c'est qu'il y ait une force qui permet de faire en sorte que les animaux copulent pour se reproduire, les choses comme ça, il y a aucun problème dans tout le règne animal ou chose. Après, c'est le ressenti subjectif.
Voilà.
Et c'est ça qui est extrêmement difficile. On est très très souvent amené à dire « comme si ». Et de résoudre scientifiquement le « comme si »,
c'est compliqué.
Je me demandais pourquoi Fabrice Drouel était arrivé si tôt aujourd'hui en studio, mais j'ai ma réponse.
Moi, je dis rien, je suis ça.
Il est arrivé pile pour le troisième sujet, et sur l'orgasme, évidemment. Extrait du spectacle.
Finalement, ce n'est que dans les années 60 que les fondements de la sexologie, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, ont été fondés par Masters & Johnson. Alors, Masters & Johnson, c'était un duo de chercheurs américains qui ont engagé une étude officielle à très grande échelle, la première base de données scientifiques. 700 participants, mariés pour la plupart, recrutés publiquement, 10 000 rapports sexuels observés en laboratoire, ça fait quand même 30 rapports par couple. Alors eux, ils ont analysé en détail la réponse sexuelle masculine et féminine, ils ont défini différentes phases qui rythment les rapports sexuels, et puis ensuite ils ont mesuré tout ce qui pouvait être mesuré. Petites lèvres, grandes lèvres, érection, pénis, clitoris, profondeur du vagin, avant, pendant, après, aucune autre étude scientifique à grande échelle n'a vu le jour depuis. Après cette date, on a mis des gens dans des scanners, on a fait des sondages, et le premier coït humain en coupe transversale par IRM a été réalisé en 99.
Ça fait rêver hein, quand on en parle comme ça. Ceux qui s'attendent à voir un spectacle érotico, je ne sais quoi, seront peut-être un petit peu déçus.
C'est ça vraiment... change les monologues du vagin.
Voilà, mais c'est très scientifique en tout cas. Vous êtes bien renseigné. Et il y a eu beaucoup d'études au fond quand même sur le sujet. Hein.
Oui, tout à fait. Mais par contre, nous, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, tous les scientifiques qui avaient cherché vraiment sur l'orgasme de manière sérieuse et impliquée avaient été décriés. Nous y compris, on se place pas du tout comme des scientifiques, mais on est confronté à des réactions très très diverses et c'est très compliqué de se sentir légitime quand on fait des recherches dans ce domaine.
Et d'ailleurs, on en a fait une partie du spectacle, donc le journal que Constance, qu'on a demandé à Constance de tenir tout au long de la production, fait état aussi de ces difficultés-là.
C'est vrai. Jusqu'à vous faire pleurer parfois aussi. Hein. Vous avez mené une enquête très difficile pour très votre compliqué. Public, mais bon, le résultat est là. Karim Benchenat, c'est vrai que ça pose des problèmes aussi de méthodologie quand même d'étudier l'orgasme en laboratoire. Hein.
Bah, c'est un peu le problème, parce qu'encore une fois, on veut passer outre le comme si on veut démontrer les choses. Et la recherche, c'est se poser la question la plus compliquée, la plus intéressante, à laquelle on peut apporter une réponse. Et c'est la deuxième partie de la phrase est extrêmement importante. Ce qui fait qu'il y a des questions à l'heure actuelle qu'on peut pas se poser parce qu'on n'a pas de protocole qui permet d'apporter des réponses scientifiques que l'on peut démontrer, aller au-delà du « non mais je suis sûr que ça marche comme ça ».
Voilà.
Alors, outre des psychanalystes, hein, vous avez rencontré une spécialiste du périnée. Mm-hmm. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, j'imagine.
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a malgré tout.
Voilà. Un gigolo belge, pourquoi ?
Oui, alors parce que les gigolos, comme vous le savez,
ils sont
doute,
un peu experts. Ils sont payés pour
à la fois sont experts, mais aussi ne sont pas légaux, en fait, en France, ouais. Ne peuvent pas exercer leur activité de manière légale. Donc voilà, on est allé le rencontrer puisque lui, il affirmait sur son site, alors il n'y a pas de photo, hein, c'est complètement anonyme, mais en fait, il affirmait sur son site toute la liste de ses compétences et en particulier, avec lui, apparemment, toutes les femmes seraient fontaines. Voilà, ça allait même plus loin.
On recherche le gigolo belge. Ça fait rêver, en tout cas. Voilà. Et il y a donc ce sexologue à Paris Descartes également, hein, que vous avez rencontré. Donc vous avez posé les mêmes questions, Didier, à chaque personne, c'est
oui,
ça
Oui, c'est ça. Donc on a établi un protocole. Et on l'a appliqué à absolument toutes les personnes qu'on a rencontrées. Alors on a donc vous parliez de Pierre Desvaux, qui est donc oui. Chef de recherche à l'université Paris Descartes, et c'était vraiment passionnant les réponses et la diversité des réponses qu'on a pu avoir. Mais il y a quand même quelque chose qu'on a constaté, c'est que systématiquement quand on parle de l'orgasme, que ce soit bon moins auprès des professionnels, mais on a aussi beaucoup rencontré de gens, parlé, puis on est devenu un peu les docteurs love de notre des alentours. Donc les gens venaient nous parler. C'est que quand on parle orgasme, les gens pensent tout de suite la femme. Alors, les hommes, après tout, ont aussi des orgasmes, enfin, je crois.
Mais bien sûr, mais enfin,
oui,
quand même.
Non, mais en fait, les gens parlent beaucoup de la femme, justement, de manière, à mon sens, pas très positive, puisqu'on parle de tous les problèmes que peuvent avoir les femmes à avoir accéder, des orgasmes, oui. etc. Et en fait, on a l'impression que l'orgasme masculin serait forcément le lot commun. Et on ne le dissocie pas forcément non plus de l'éjaculation. Et bon, nous, on s'est rendu compte aussi, au gré de nos recherches, qu'il y avait une vraie différence et qu'il n'était pas forcément associé, effectivement, à l'éjaculation.
Donc le spectacle, c'est pas un manuel d'éducation sexuelle, mais quand même, il y a des éléments qui peuvent permettre aux hommes et aux femmes de se retrouver, puis d'améliorer leur qualité orgastique.
Allez, on vous voit à la Comédie de Reims du 17 au 28 novembre, la fonction de l'orgasme, et puis en tournée ensuite, on repérera les dates pour les annoncer, à partir de 2016. Merci beaucoup
Merci
à tous
à
d'être passés dans notre club. Et Fabrice Drouel.